Nous relisons aujourd'hui dans les tout premiers versets de l'Écriture, dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, la totalité du premier chapitre et les trois premiers versets du second. Commencement de la création, par Dieu, du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière de la ténèbre, il appela la lumière « jour », et la ténèbre il l'appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques ». Remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes, bêtes sauvages, selon leur espèce, il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. » À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. On peut se demander pourquoi il est opportun de revenir sur des textes aussi célébrissimes. Pourquoi choisir des textes lus et relus plusieurs dizaines, centaines de fois peut-être, par chacun d'entre vous, et ne pas se concentrer pour une fois sur un oublié, un texte obscur dans l'Ancien Testament? La plupart du temps, c'est là qu'il se trouve. Peut-être parce que les fameux oubliés ne sont pas si oubliés que cela. Je vous l'ai dit, ils sont situés dans l'Ancien Testament pour la plupart, mais nous les voyons tous, plus ou moins, chacun à leur tour, repris, cités, parfois approximativement. Dans le Nouveau Testament, ils sont réactualisés, intégrés, ravivés, un petit peu écornés aussi parfois au passage. Mais aussi parce que ce n'est pas parce qu'on est célèbre qu'on est connu. C'est principalement pour cette raison qu'il faut revenir sur ces grands textes fondateurs. Chacun peut les situer, en dire quelque chose, mais souvent nous ne les exploitons pas dans ce qu'ils ont de plus intéressant, ou nous ne voyons au fond assez souvent que les mêmes choses qui reviennent et nous oublions le reste. Nous restons bloqués dans l'usage qu'on a pu en faire à certains moments de l'histoire de nos églises ou de notre propre histoire de lecteur. C'est exactement le cas de ce texte-ci, qui a été lu et relu des centaines, des milliers, des millions de fois. Qu'a-t-on vu principalement dans le premier récit de la création? D'abord, une cosmogonie, la naissance du monde, ou d'un monde, ou d'une partie du monde en tout cas. Un certain regard sur les raisons de notre présence au monde aussi, et ça, c'est plus proche de nous déjà. Nous nous rendons compte en le lisant, en le relisant à chaque fois, que nous avons été voulus là par quelqu'un. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a cette affirmation étonnante qui fait de nous des créatures à l'image et à la ressemblance du Créateur. Voltaire, assez moqueur, vous vous en souvenez peut-être, avait dit « Dieu a créé l'homme à son image et ce dernier le lui a bien rendu ». C'est assez vrai, finalement, peut-être pas dans le sens où il l'entendait, parce que nous fabriquons nous-mêmes beaucoup de Dieu à notre image. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas terribles. Ces deux thèmes de la création et de la création à l'image et à la ressemblance ont déjà fait couler pas mal d'encre, vous l'imaginez bien, dans la tradition exégétique de nos frères juifs, bien avant nous, et puis dans la nôtre, ensuite, évidemment. Commençons par le premier de ces thèmes. Y a-t-il ici une affirmation d'un commencement absolu de l'univers? Vous étiez venu pour avoir la réponse à cette question, j'espère. Vous repartirez peut-être pas avec la réponse. Si c'est le cas, s'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du début absolu dans ce texte, que faut-il en faire ? Là non plus, je ne répondrai pas à votre place. La tradition répond généralement oui à la première question. Il nous suffit pour cela de nous rappeler la traduction habituelle que nous lisons dans beaucoup de Bibles, de versions de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Mais justement, les traducteurs d'aujourd'hui, très au fait des problèmes de traduction de ce passage compliqué, ont parfois modifié profondément leurs propositions. J'ai choisi volontairement la traduction œcuménique pour vous lire ce premier chapitre de la Genèse, parce que justement, dans cette traduction œcuménique, la TOB, il y a eu entre 1975, le moment du début des travaux pour réaliser cette traduction, et aujourd'hui, trois traductions différentes de Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était la lecture ou la traduction traditionnelle qui avait été choisie au départ pour ne pas désorienter ou choquer le lecteur. Un peu plus tard, dans les années 88 par là et suivantes, deuxième traduction, lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, virgule, la terre était déserte et vide, point. Suit le reste du verset 2. Et puis il y a celle que je vous ai relue, c'est toujours la même traduction, c'est le même comité de traduction à peu près, et qui donne « commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre, point ». Parce que c'est un titre. « La terre était déserte et vide, virgule, etc., etc. » Vous voyez, à chaque fois, ça change un peu, non pas l'intention profonde du texte, je crois, mais l'éclairage sous lequel il faut regarder l'idée d'un commencement. C'est le même comité de traduction qui a évolué au fil des années et qui donne trois versions différentes du même texte. Si vous répétez ces trois commencements différents, vous verrez qu'il y a trois descriptions différentes d'un geste créateur de Dieu, mais aucune affirmation claire et définitive d'une création ex nihilo, comme ce que l'on a traduit en doctrine par la suite. C'est une idée assez moderne, en fait, la création ex nihilo, pour les Hébreux en tout cas, elle est venue bien plus tard. Dans les livres deutérocanoniques, on en trouve une toute petite mention dans le premier livre des Maccabées. Le premier verset de la Bible ne dit pas cela, comme s'il ne s'y intéressait pas tant que cela. Il semble présenter Dieu sous les traits d'un potier qui façonne quelque chose, une matière préexistante, et on ne nous dit que cela. Comme si, encore une fois, ça n'était pas si intéressant que cela de le savoir. Faut-il abandonner cette idée d'un univers avec un début absolu ? Faut-il composer avec l'idée, peut-être un peu diluante, angoissante, d'un univers éternel qui se contente de se dilater, de se contracter et puis de recommencer indéfiniment, comme un cœur qui fait circuler le sang dans l'organisme et dont on souhaite justement qu'il ne s'arrête pas. Faut-il vraiment choisir entre les deux ? Que peut-on faire de ce texte aujourd'hui ? La cosmologie, heureusement pour nous, est devenue une affaire de spécialistes. Les spécialistes servent toujours à quelque chose. À commenter un événement, c'est à cela qu'ils servent de plus en plus. Ils servent aussi à ceux qui sont moins compétents qu'eux à déléguer le traitement de certaines questions difficiles. C'est un peu notre cas. La cosmologie est vraiment une affaire de spécialistes. Ce sont plutôt les physiciens qui, aujourd'hui, essaient de nous dire comment peut fonctionner cette énorme machine. Et encore, ils changent fréquemment d'avis. Les théologiens, eux, de leur côté, n'osent plus affirmer quoi que ce soit sur des questions comme celle-ci, en tout cas pas de manière péremptoire, et c'est peut-être une bonne chose. Il ne faut plus s'occuper de décrire le monde alors que d'autres ont la compétence de le faire. C'est peut-être une forme de sagesse qui a fini par nous atteindre. Il vaut mieux se demander ce que nous faisons dans ce monde qui a été donné et où nous nous sentons dans ce texte convoqué, où on nous rappelle avec insistance que nous avons été voulus par quelqu'un d'autre que nous et placés à cet endroit-là, et ce que cela veut dire pour nous. C'est de cela que nous devons nous occuper, et c'est précisément ce que nous trouvons dans ce premier chapitre de la Genèse. Peu importe la naissance, la vie et la mort de ce monde, si jamais ces faits décrits de cette manière ont un sens quelconque, d'autres s'en occupent pour nous, ils trouveront peut-être. Demande-toi plutôt ce que cela te fait à toi de savoir qu'un autre t'a voulu là où tu es, en mettant de l'ordre là où régnait le chaos, en organisant les choses autour de toi pour que ton monde soit vivable. Demande-toi si le meilleur moyen d'être là n'est pas justement de mettre un peu d'ordre dans ton propre chaos. Si ce commencement est important pour nous, c'est parce qu'il fait de nous des cherchants en quête de verticalité, des individus, des communautés qui cherchent à s'élever, c'est ce que nous faisons ici, à s'édifier, à se lever, se relever. Cela ne nous transforme pas en détenteurs d'un supposé savoir qui change fréquemment, un savoir sur les origines que même les spécialistes hésitent à prétendre définitif. Mais le texte, heureusement, ne nous laisse pas seuls dans un monde bien ordonné, mais où il faut, et ça peut être très écrasant, nous débrouiller tout seuls. Il nous précise comment nous sommes configurés, pourquoi nous avons été pensés et mis de cette manière-là, à cet endroit-là, et en vue de quoi ? À l'image et selon la ressemblance de Dieu. On le retrouve d'ailleurs un peu plus loin, juste avant la généalogie de Genèse 5, où il est question cette fois-ci d'engendrer à l'image et à la ressemblance, mais cette fois-ci, c'est la descendance humaine qui a cette même façon de se perpétuer. Il y a ici très clairement l'idée d'une conformité par rapport à un modèle. L'image ou la ressemblance, c'est ce qu'on souhaite avoir sous les yeux pour reproduire fidèlement quelque chose. Il ne faut pas oublier que ces textes anciens s'inspirent eux-mêmes d'autres traditions encore plus vieilles, plus vénérables. Les commentateurs estiment qu'on trouve dans ces lignes un modèle égyptien dans lequel le pharaon est l'image de Dieu, dans la mesure où il reflète la volonté de Dieu face au peuple. La version hébraïque ne fait que démocratiser beaucoup, c'est vrai, cette conception, en l'étendant à l'humanité tout entière, désormais porteuse dans son ensemble de cette exigence. Mais encore une fois, ce n'est pas rien d'apprendre, non pas d'où vient ce texte et par où il a transité, mais d'apprendre qu'on est convoqué par une exigence. C'est tout ce qui nous invite au discernement, c'est-à-dire à un travail de recherche, une quête, là encore, non pas un savoir que l'on pose, qu'on archive et que l'on tient pour vrai une bonne foi. Une quête toujours à recommencer, être à l'image de quelqu'un, être conforme, c'est vraiment ordonner sa vie en fonction de cette exigence. C'est difficile, c'est long et peut-être bien incertain. En tout cas, on n'est pas à l'image de quelqu'un d'autre quand on se contente de le singer ou de l'imiter, comme un humoriste qui reprend la voix, les mimiques et les gestes d'une personnalité pour amuser la galerie. Ce n'est pas ça, être à l'image de quelqu'un d'autre. On est à l'image d'eux, selon la ressemblance d'eux, lorsqu'on décide de se façonner soi-même selon un modèle, ou encore honorer le modèle pour mieux devenir soi-même. Alors que faut-il faire pour construire cette image fidèle, la plus fidèle possible ? L'idée de péché, vous le savez, fait constamment référence à ce texte d'origine et aussi au deuxième récit de création, récit qui pourtant n'en parle pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce que le péché, avant de nous apparaître dans le chapitre 3 de la Genèse, peut très bien être vu à partir de celui-ci comme un simple brouillage, une détérioration de cette image. Ça suffit de se savoir créé à l'image d'eux, à la ressemblance d'eux, et de constater que ça n'est toujours pas le cas, qu'on en est très loin. Ça suffirait largement. Brouillage, donc, comme une image qui est en cours de construction et qui ne reflète encore que très peu le modèle qui se pose face à nous. La vie entière, alors, Et cette aventure où chacun doit reconstituer cette image abîmée. Difficile chemin pour parvenir à soi, sans être, encore une fois, tout à fait certain d'y arriver. Ou du moins, d'y arriver seul. Tout le monde s'est regardé dans une glace le matin. On ne ressort pas chez soi en étant forcément content de l'image qu'on donne, mais quand on se regarde dans le miroir, ce miroir bien poli, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui nous dit peut-être ce que nous avons envie de regarder, nous avons quand même encore une image inversée, c'est-à-dire une fiction fausse de nous-mêmes à laquelle nous nous sommes habitués. Je me vois, je suis habitué à cette image, et pourtant ce n'est pas moi parce que c'est une simple image. Moi, je suis devant la glace, pour de vrai, en chair et en os. Et ce que je regarde, c'est un reflet inversé, virtuel, qui disparaîtra quand j'aurai tourné le dos. Il est doublement faux. C'est une image inversée, je m'y suis simplement habitué. Alors, que faut-il faire pour construire une image fidèle, nous qui sommes habitués à la fausseté d'une image qui pourtant nous satisfait? La Genèse est bien le livre des commencements. Des commencements absolus, des commencements qui nous concernent absolument, qui concernent absolument la manière de façonner notre vie. C'est pour ça que nous pouvons toujours y revenir, sans chercher forcément un savoir à archiver. Le premier chapitre ne se contente pas de planter un décor jour après jour, dans un ordre assez étrange d'ailleurs, il y a de la lumière avant le soleil, les étoiles et la lune. Il ne se contente pas de nous mettre dans un décor poétiquement et joliment décrit. Il nous dit en quoi consiste notre vie. Il déroule devant nous la tâche qui nous attend. Elle est énorme. La Genèse ne nous renvoie pas à un passé immémorial. Ça n'aurait aucun intérêt. Nous ne pourrions pas y revenir. Elle ne nous renvoie pas à un pseudo-savoir sur les origines. Ce premier récit de la création fait de nous des femmes, des hommes en recherche, invités à s'édifier, s'élever, se verticaliser, pour reconstituer pièce par pièce un miroir cassé dont le reflet n'est qu'une fiction inversée. Animal social qui met plusieurs mois avant de se reconnaître dans sa propre image, son propre reflet dans le miroir, l'humain que nous essayons de devenir doit reconstituer sa propre image une fois devenu adulte, et faire confiance aux autres qui la voient enfin telle qu'elle est, sans filtre, sans glace, sans fiction inversée. Difficile chemin pour arriver à soi. Il y a un proverbe qu'on dit gaélique, mais d'autres disent qu'il est japonais, allez savoir, et qui dit « le meilleur miroir est l'œil d'un ami ». Alors, celte ou japonais, peu importe, il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Nous devenons enfin entiers quand d'autres nous disent qui nous sommes, vus de l'extérieur. Nous sommes tous devant un miroir tous les matins, et chaque jour est un recommencement, effectivement, une étape supplémentaire dans notre construction de nous-mêmes. Le génie inépuisable de ce texte, de ce récit, est de nous mettre sur la voie de cette construction en nous fixant une exigence et surtout en nous trouvant des partenaires, parce que s'il s'agit d'édifier et de construire, nous ne sommes pas tout seuls sur le chantier. C'est ainsi que nous devenons un peu créateurs nous-mêmes, en mettant un peu d'ordre dans notre chaos, grâce aux autres. Amen.